Alors, parcours personnel, je commencerai par une petite phrase qui va peut-être vous étonner. Sauf cas particulier, je suis toujours étonné, et par conséquent je ne crois pas d'état, qu'il y a réellement des vocations, comment dirais-je, très affirmées. Bon, ceci va à l'encontre de ce que l'on dit. Je reconnais que, par exemple, un fils de marin-pêcheur en Bretagne aura peut-être envie de devenir marin-pêcheur en Bretagne. Est-ce une vocation? Est-ce des directives familiales? C'est toujours assez difficile à déterminer. Évidemment, vous savez fort bien qu'un musicien ou un fils de musicien aura peut-être tendance à faire de la musique par la suite. Mais pour le reste, je ne crois pas que dès l'âge où on commence à réfléchir sur ce que sera notre vie, encore c'est un grand mot, je ne crois pas qu'il y ait des vocations très tranchées. Il y a des orientations diverses. Et si je fais ce préambule, vous allez voir pourquoi. Parce que, personnellement, étant donné ce qu'on appelle les aptitudes, je crois qu'on peut encore employer ce terme, j'étais plutôt porté vers les études scientifiques que vers les études littéraires, ça c'est clair. Ce qui ne veut pas dire que je ne lisais pas les bouquins, mais enfin, je me sentais plus à l'aise avec les mathématiques, c'est pour ça qu'à l'époque, j'ai fait mon baccalauréat, mathélème, comme tout un chacun, puisqu'il y avait simplement le choix entre philo et maths. Et donc j'ai fait maths. Oui. Mais j'avais une petite orientation préférentielle, qui était la mer. J'aurais souhaité faire l'école navale, mais à l'époque, les questions de vision étaient primordiales, et quand je me suis présenté avec mes yeux d'astigmatisme très poussés, on m'a dit, garçon, pas question, etc. Alors actuellement c'est fini, ça porte des lunettes, porte des verres de contact, mais à l'époque c'était comme ça. Donc j'ai abandonné les tentatives maritimes, et ma deuxième préférence, c'était les applications à la terre, donc dans des choses émises, grosso modo, c'est ça. Bien. Donc, c'était ce qui me paraissait ce que je pouvais envisager de faire. Mais il y a eu la guerre. Oui. Et la guerre, a tout arrêté. J'arrive à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'étais l'ancien doyen de la faculté des sciences, qui était un biologiste, venez. C'était un monsieur très original, qui s'appelait le professeur Joseph Chen. C'était un zoologiste de renom, et il avait donc été doyen de la faculté des sciences, et c'est un homme qui était, disons, de bon conseil. Le discours qu'il m'a tenu était très clair, il m'a dit, vous savez, nous ne savons en aucune manière ce qui va se passer. Et il faut reconnaître que juin-juillet 1940, l'avenir, c'était un certain nombre de points d'interrogation. Et moi, le conseil que je vous donnerais, ce serait de vous lancer dans l'acquisition de la licence. Il faut que cette licence soit une licence d'agrégation, c'est-à-dire avec tous les certificats, botanique, zoologie, géologie, minéralogie, si vous pouvez avoir un bagage à peu près complet. Alors, mon Dieu, j'ai pas mal réfléchi, et comme je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, il n'était pas question que je revienne dans le nord de la France, parce qu'à l'époque, les Allemands avaient décrété que cette région était une région interdite. En plus de ça, avoir 20 ans à cette époque, on était un peu dans le collimateur, faut dire quand même. Et par conséquent, je suis resté à Bordeaux. Ma mère et ma famille avaient quitté le Nord et étaient installées à Castillon-la-Bataille. Et c'est à partir de Castillon-la-Bataille que là, j'étais au calme, j'ai réfléchi et j'ai commencé d'ailleurs à avoir des activités subversives. Je vous raconterai ça un autre jour. Comme c'était une période d'attente, c'était exactement le terme qui est convenu, une période d'attente. On ne sait pas ce que ça veut dire. J'avais essayé de partir en Angleterre, mais ça n'avait pas été possible. Enfin bon. Je dois dire que j'ai eu quelques difficultés parce que, d'après les professeurs de sciences naturelles, je n'avais absolument pas l'esprit naturaliste. Alors, c'était une tare. Tout ça a changé maintenant, c'est fini, puisque dans les sciences naturelles, vous savez qu'on fait la chimie, on fait la physique, à l'époque, c'était pas question.
Alors qu'est-ce que l'esprit naturaliste? C'était quoi l'esprit
naturaliste? L'esprit naturaliste, c'était faire essentiellement des études sur les espèces, sur les mutations, sur les choses comme ça. Le certificat botanique, il fallait une mémoire monumentale pour se rappeler de toutes les familles, les espèces, les ceci, les cela, bon, la zoologie, c'était pareil, mais avec une petite... la zoologie avait une avance sur la botanique, parce qu'ils avaient déjà, à l'époque, une préscience de la... comment dirais-je, de cette nécessité de connaître les aspects physiologiques des animaux. Les végétaux, c'était encore limite. Donc il fallait une mémoire épouvantable, plus le fait que les cours étaient considérés comme devant être traités au minimum sur 2 ans et le plus souvent sur 3 ans. Ce qui voulait dire que vous étiez obligé, au moment de l'examen, d'avaler les 2 années ou les 3 années de cours. Le cours de géologie se faisait sur 4 ans. Vous aviez une année de primaire, une année de secondaire, une année de tertiaire et une année de tectonique. Il fallait la géologie structurelle. Et il fallait avaler tout ça. Bon. Alors là, je fais une petite parenthèse. Lorsque j'étais à Lille, et donc étudiant en mathématiques, physique, puisque à l'époque, il y avait des certificats qui s'appelaient mécanique rationnelle, calcul différentiel, j'ai fait mécanique des fluides, enfin bon. J'allais écouter pour le plaisir un certain professeur qui a involontairement été à l'origine de la facilité avec laquelle j'ai pu faire le transfert. Il s'appelait Pierre Preuot. C'était un professeur de géologie absolument remarquable. C'était un homme qui expliquait les phénomènes de subsidence, parce qu'à l'époque c'était une des grandes questions que l'on étudiait, grâce à la connaissance que l'on avait des gîtes charbonniers. Parce que la subsidence, c'est-à-dire l'enfoncement des bassins, et qui est, comme vous le savez, un phénomène, je dirais, à cycle essentiel, vous avez une cinématique qui fonctionne d'enfoncement, puis ça s'arrête, puis ça recommence, ça s'arrête. Et vous avez toujours la même succession de terrains. C'est-à-dire des sables, des filons charbonniers, des sables, des argiles, on a le même toujours, la même. Et quand le bassin mouillé du Nord a été exploité, il y a fort longtemps, il y a eu des recherches qui ont été faites, on ne peut pas dire de sédimentologie, très 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 valable, puisque la subsidence, le phénomène de subsidence est sorti de ces études. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsque j'ai commencé ma carrière comme géologue en Aquitaine, j'avais été amené à envisager de faire de la géologie de subsurface, c'est-à-dire je vis le sondage. Et je pense, en y réfléchissant, que c'est grâce à ce professeur de Lille, qui est devenu ensuite le grand patron à Paris, quand il a succédé à Charles Jacob, qui a fait toute la géologie et toute la subsidence sur les bassins houillés grâce à des forages, parce que c'était des forages de recherche minière, évidemment, puis c'était quelque chose de sérieux à l'époque, m'a fait comprendre l'importance de cette géologie de subsurface, bien avant que j'envisage la chose par la suite. Je pense qu'à l'origine, il y a eu cette espèce d'incitation, si on peut dire. Et j'avoue que j'allais, tout en étant étudiant, donc en mathématiques, en physique, en ce que vous voudrez, j'avais écouté par plaisir ces cours qui étaient présentés d'une façon remarquable. Et je dis toujours que l'influence des patrons, c'est quand même quelque chose d'important, parce que même sans s'en rendre compte, on a une empreinte qui se fait et qui s'efface ou au contraire devient de plus en plus forte. Et il est certain qu'en ce qui me concerne, Pierre Preuot, sans le savoir, a eu une influence sur moi. Bon. Et un jour, vous savez, à l'époque, au certificat de géologie à Lille, il n'y avait pas 10 étudiants. C'était, je vous parle de 1939. Pierre Preuot finit son cours. Les étudiants s'en vont, je prépare mes affaires pour m'en aller. Il me dit, dis donc, vous êtes
campagne.
Il dit, mais je vous vois au cours, je ne vous vois pas aux travaux pratiques. Moi, j'ai dit, monsieur le professeur, je ne suis pas inscrit au certificat. Je viens en sorte d'auditeur libre parce que ces cours m'intéressent. Alors il m'a questionné, il m'a demandé ce que je faisais, etc. Il m'a dit, c'est la première fois, je le rappelle, c'est la première fois que j'ai un étudiant de mathématiques qui vient suivre un de mes cours. Et puis, il a pris l'habitude, de temps en temps, après le cours, de discuter avec moi. Il m'a amené dans son bureau, on discutait. Et il m'a montré à l'époque, c'est pour ça que je vous en parle, il m'a montré à l'époque des calculs qu'il avait fait, mais qu'il n'a jamais publié, des calculs qu'il avait fait sur les différentes phases matérialisées par les sédiments caractéristiques de la subsidence, n'est-ce pas ? Et il y avait des séquences qu'on aurait pu insérer dans des séquences de Taylor. Il est probable que s'il était resté à Lille, s'il n'avait pas eu la guerre, j'aurais continué à travailler avec lui sur ces problèmes. C'est-à-dire l'application des mathématiques à un phénomène de subsidence, donc un phénomène naturel, mais qui était étudié d'une façon tellement fine que l'on pouvait suivre sur 1000 mètres de puissance, et ça, c'était passionnant. Ça n'a jamais été fait. Non, jamais. Et les notes de Bruno, on dit, je ne sais pas qu'elles sont venues, j'en sais rien. Mais il m'avait montré déjà, et il m'avait demandé mon avis en tant qu'étudiant mathémateux, quoi. Mm-hmm. Alors si c'était créé une sorte de contact, oh, disons pas amical, peut-être, mais enfin sympathique, mm-hmm. entre lui et moi, et je pense que quand à Bordeaux on m'a dit, vous avez l'esprit mathématique ou vous n'avez pas l'esprit naturaliste, je dis, mais c'est quand même un peu sec, puisque j'ai tout de même eu un autre contact. Avec un monsieur qui était facilement. Bon. Je dois dire que cette réflexion sur les difficultés que j'aurais à faire des sciences naturelles, c'était essentiellement venu des botanistes. Les zoologistes, non, et les géologues, absolument pas. Du tout. Bon. Vous voyez, cette empreinte très faible, mais je crois que ça a été déterminant par la suite. Alors donc, j'ai fait tous les certificats qu'il fallait faire, hein, botanique générale, zoologie générale, minéralogie, géologie, etc. Et puis ensuite, ma famille est repartie dans le nord pour essayer de retrouver un petit peu ce qui s'était, parce que la maison dans laquelle on vivait avait été bombardée, enfin ça. Mais elle ne souhaitait pas tellement que j'aille dans cette région parce qu'il y avait des rafles, il y avait. C'était un climat d'insécurité assez prononcé. Dès les premières années, hein, oui. Dès 41, ça allait mal. Hein, ça, c'était... Oui. Bon. Alors, je suis donc resté à Bordeaux. Mm-hmm. Le professeur Fernand Daguin, qui est donc professeur de géologie, m'avait dit écoutez, je vois que la géologie vous intéresse. Aller faire un diplôme d'études supérieures, c'est à dire que j'ai fait toute la cartographie géologique de la région de Castillon-Saint-Émilion. Vous voyez tout ce carré, ben, j'y retourne d'ailleurs de temps en temps avec grand plaisir, je casse du caillou un peu dans cette région. Parce que... Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette région, il m'a dit, si vous pouviez aller en zone libre, parce qu'à l'époque, il y avait la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée qui passait par Castillon. Mm-hmm. Si vous pouvez aller en zone libre, ce serait bien d'avoir un carré un peu plus grand. Enfin. Ou tout au moins des termes de comparaison, puisque la limite de certaines transgressions se trouve à peu près à la hauteur de Castillon, mon carré. Enfin. Donc j'avais commencé à passer en fraude la ligne de démarcation. J'avais pas de raison d'avoir des papiers officiels pour faire ça. Donc passer ça en fraude, bon, c'était assez amusant. Puis j'avais 20 ans, alors j'étais sportif. Quoi. Et d'ailleurs, une fois, j'ai été arrêté par les Allemands, au moment où je passais la ligne, et je leur ai expliqué que je faisais des études géologiques. Je parlais allemand, c'est bien à l'époque, donc ça facilitait les choses. Et alors, la patrouille m'a dit, mais vous n'avez pas de papier, enfin, bon, ça s'est arrangé comme ça. Je leur ai dit, vous savez, moi je fais des études, c'est pour trouver de l'eau, et peut-être un jour, je dis du pétrole. Le mot magique, vous savez. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, je passais la ligne relativement facilement. Et ceci a été, comment dirais-je, l'occasion pour moi, un jour, ayant reçu des courriers de mes anciens patrons de Lille, en mécanique des fluides. Il y avait à Lille un institut de mécanique des fluides et on travaillait sur des formules mathématiques en fait, essentiellement des fluides parfaits, nous dit-elle. Et on travaillait en. Là aussi, vous allez voir, je retrouve certains points de mes aspirations antérieures. On travaillait sur des maquettes d'avions et des maquettes de bateaux. Et il y avait un grand canal pour faire des études d'aérodynamisme, d'hydraulique. Et donc, je retrouvais un petit peu les envies que j'avais eues de, faire carrière dans la marine. Voyez-vous. Et le professeur de Lille m'envoie une lettre un jour, il me dit, écoutez, est-ce que, c'était d'ailleurs très imprudent de sa part d'écrire des lettres de ce genre, enfin, j'ai un certain nombre de documents que je ne peux pas confier à toutes les mains, est-ce que, éventuellement, vous pourriez aller les poster en zone libre ? Chez Rome, si jamais la lettre avait été interceptée par les Allemands, lui était bon, moi aussi. Mmh. Bon, peu importe. Ah, wow. Bon, certainement, ce professeur, je suis prêt. Monsieur Veissy, j'ai dû recevoir. Oh, je crois, enfin, c'était presque des caisses de documents. Cela. Alors, il a bien fallu que le professeur en question me dise de quoi il s'agissait. C'était des maquettes d'avions à réaction, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas encore. C'était des maquettes de sous-marins. C'était des plans archi-confidentiels, archi-secrets. Et pendant donc près de 3 à 4 mois, j'ai passé mon temps à passer les documents. Archi-secret, au début je ne savais même pas ce que je faisais. Après, bon, je savais, ma mère était folle d'inquiétude, c'est-à-dire, je me disais, si jamais, tu te prends. Mais ça me donnait du piquant, si vous voulez, c'était quand même agréable. Et puis j'avais l'impression quand même que ces documents, il ne fallait pas que ça tombe entre les mains des Allemands. Vous savez, ma génération avait été élevée en disant, l'ennemi séculaire, il est de l'autre côté du Rhin, hein, comme ça. Bon. Donc, j'ai passé mon temps à faire de la géologie et en même temps à passer les documents, à les poster en zone libre pour que ça arrive à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Et c'est comme ça que, bon, je ne dis pas tous les documents, il y en a eu d'autres, je pense, qui ont dû passer par ailleurs, mais une grande partie des documents de l'Institut de Lille. Et donc, concernant, je pense, des recherches, assez confidentielles, sont passées à la barbe des Allemands par un petit pays, dans un petit pays qui s'appelle Castillon-la-Bataille, et par un jeune plaisantin de mon esprit.